VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Chérubin Dorsil et Tatiana Mosso, bonsoir à tous. Bienvenue à l'édition de ce mardi 1er mars 2016. Au sommaire ce soir.
C'est officiel en Centrafrique. Faustin Touadéra est désormais le nouveau président. Il a été déclaré ce mardi par la Cour constitutionnelle.
La victoire que vous venez de me donner exprime l'énorme espoir et les grandes attentes que suscite ma candidature. Nous construirons une démocratie vivante, apaisée, respectueuse des droits de chaque citoyen.
Burundi, une délégation d'experts onusiens commence une enquête de 8 jours sur les violations des droits de l'homme dans le pays.
Leur objectif est d'aider le gouvernement burundais à remplir ses obligations en matière des droits de l'homme. Après, ils pourront établir des responsabilités pour les cas de violation.
Zimbabwe.
Today is a historic day. This is a day of great significance in our country's political history.
D'abord pressentie comme dauphine de Robert Mugabe puis limogée, Joyce Mujuru annonce aujourd'hui la formation d'un parti politique d'opposition.
Nous irons au Bénin pour les derniers remous de la campagne pour les élections de dimanche.
Et nous reviendrons sur le Super Tuesday des primaires ici aux États-Unis, en un tournant décisif dans la course à la Maison-Blanche, tant du côté républicain que démocrate.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal.
C'est désormais officiel, Faustin Archange Touadéra est le nouveau président élu de la RCA. Sa victoire a été validée aujourd'hui par la Cour constitutionnelle de transition. On fait le point avec Freeman Sipila.
La haute juridiction, après avoir déclaré irrécevable 3 requêtes qui lui sont soumises par certains alliés du candidat initié Georges Dologuélé, a déclaré Faustin Archange Touadéra vainqueur du second tour de la présidentielle du 14 février avec 62,69% des voix contre 37,31% pour son rival. Peu après la décision de la Cour constitutionnelle de transition, le nouveau président centrafricain s'est exprimé à la nation.
Mes chers compatriotes, la victoire que vous venez de me donner exprime l'énorme espoir et les grandes attentes que suscite ma candidature. Nous construirons une démocratie vivante, apaisée, respectueuse des droits de chaque citoyen. Je serai le président de la réconciliation nationale. Une réconciliation nationale sans laquelle rien ne sera possible. Je serai le président de la refondation nationale, car c'est une nouvelle ère qui s'ouvre, pleine de promesses et de défis.
La Cour constitutionnelle de transition rendra sa décision pour le premier tour des législatives le 11 mars prochain. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
À suivre en partie magazine, une interview exclusive du président élu centrafricain Faustin Archange Touadéra.
Toujours en République centrafricaine, la situation alimentaire est des plus critiques. Plus de la moitié de la population souffre de la faim. Après 3 ans de violences intercommunautaires, en mise en garde ce mardi, la FAO et le PAM. Les récoltes de céréales, par exemple, sont inférieures de 70% à ce qu'elles étaient avant la crise. Les meurtres et pillages ont réduit de moitié le cheptel bovin et fait disparaître près de 57% des chèvres et moutons, tandis que la pêche a baissé de 40% en Centrafrique.
Les 3 experts des Nations Unies chargés d'enquêter sur les violations des droits humains au Burundi sont à Bujumbura depuis hier soir. Pendant 8 jours, ils auront des entretiens avec différents secteurs et ils rendront compte de leurs premières conclusions avant la fin du mois au Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Reportage à Bujumbura de Christophe Kourounziza.
D'après un des experts, Christophe Hans, rapporteur spécial des Nations Unies sur les exécutions extrajudiciaires, leur objectif est d'aider le gouvernement burundais à remplir ses obligations en matière des droits de l'homme. Après, ils pourront établir responsabilité pour les cas de violation et d'atteinte aux droits de l'homme, sans oublier d'identifier leurs auteurs présumés. C'est donc une mission délicate établie par le Conseil des droits de l'homme le 17 décembre 2015, surtout que lundi, une fosse commune où 3 corps ont été trouvés a été identifiée par les autorités de Bujumbura, indiquant qu'elle est l'œuvre des criminels qui combattent le 3e mandat du président Pierre Nkurunziza. La rapporteure spéciale de l'Union africaine sur les réfugiés, Madame Saïli Fadel, qui est un des 3 experts, a indiqué que la délégation va essayer d'aider le Burundi à éviter le pire. Elle pourra aider le pays à adopter des mesures de justice transitionnelle appropriées et préserver ainsi l'esprit d'Arusha. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
L'ex-successeur apparent du président zimbabwéen Robert Mugabe, Joyce Mujuru vient d'annoncer la formation d'un nouveau parti politique. Son objectif, mettre fin à près de 4 décennies de pouvoir dictatorial à Harare. Lionel Gaïma nous en dit plus.
Joyce Mujuru a fait l'annonce mardi, déclarant que ce 1er mars est un grand jour dans l'histoire politique du Zimbabwe.
We are living under an unjust system.
Nous vivons, dit-elle, sous un système injuste. Il faudra débarrasser le pays totalement du fléau de la corruption. Âgée de 60 ans, Joyce Mujuru a occupé le poste de vice-présidente du Zimbabwe pendant 10 ans, de 2004 à 2014. Cependant, accusée par Grace Mugabe, la femme du président, de fomenter des dissensions contre Robert Mugabe au sein du parti au pouvoir, la ZANU-PF, Mujuru a été limogée. Le président zimbabwéen a 92 ans et n'a montré aucun signe de vouloir céder le pouvoir qu'il détient depuis l'indépendance en 1980. Les prochaines élections sont prévues dans 2 ans.
Le gouvernement équato-guinéen a annoncé mardi la suspension jusqu'à nouvel ordre de la tournée organisée dans le pays par, l'opposant Gabriel Tsé-Ombiang-Obono en vue de l'élection présidentielle prévue d'ici fin 2016 et l'arrestation de 5 de ses partisans après une bagarre. Il a réfuté la version officielle et accusé les autorités d'avoir voulu infiltrer sa réunion. Teodoro Obiang-Nguema dirige le pays, ce petit pays d'Afrique centrale d'une main de fer depuis le coup d'État de 1979, qui avait renversé le régime sanguinaire de son oncle Mathias Nguema. Son régime est régulièrement dénoncé par les organisateurs de défense des droits de l'homme pour sa violente répression à l'encontre des opposants politiques, des organisations indépendantes de la société civile et des médias, ainsi que pour l'ampleur de la corruption dans le pays.
Et le Parlement sud-africain a rejeté ce mardi une motion de défiance soumise par le principal parti d'opposition pour destituer le président Jacob Zuma, accusé d'avoir plongé le pays dans une crise économique.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Crise syrienne, le président Bachar al-Assad estime que la cessation des hostilités depuis 4 jours est une lueur d'espoir pour son pays. Des violations de la trêve ont tout de même été signalées. Maïli Segel.
Dans une interview à la télévision allemande, le président Assad a assuré que son gouvernement fera son possible pour rendre la trêve stable. Le secrétaire d'État américain John Kerry estime de son côté que les prochains jours seraient critiques pour l'instauration d'une paix durable en Syrie. John Kerry et le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov se sont mis d'accord pour dire qu'il y a un certain nombre de violations, mais qu'ils ne veulent pas les rendre publiques. Ils comptent sur le groupe de travail entre les deux pays pour mener des enquêtes et promouvoir le respect de l'arrêt des combats. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a également signalé quelques incidents, mais a noté que la cessation des hostilités était respectée en grande partie. Les rebelles affirment quant à eux avoir enregistré 26 violations à la trêve. Le chef des négociations des rebelles, Riyad Hijab, a ajouté que ces violations ont été commises par le régime et ses alliés, et en particulier la Russie. Des raids d'hélicoptères auraient causé un grand nombre de civils morts dans plusieurs parties de la Syrie.
Politique américaine, c'est aujourd'hui le Super Tuesday, le mardi de tous les dangers. Cette journée aura assurément un impact indéniable sur la sélection des 2 candidats qui s'affronteront côté démocrate et républicain en novembre pour succéder à Barack Obama à la Maison-Blanche. Les précisions d'Idrissa Seloudia.
Au moins 11 États participent à ce qu'on appelle ici le Super Mardi parce que, en une seule journée, 1/5 des délégués républicains et 1/4 des délégués démocrates aux conventions de cet été seront attribués. Il s'agit de savoir combien d'États remportera le favori républicain Donald Trump face à ses 2 principaux rivaux, les sénateurs Marco Rubio et Ted Cruz. On prédit sa victoire dans 10 États, le Texas restant dans le camp de son sénateur Cruz. Pour ce qui est de la favorite démocrate Hillary Clinton, les derniers sondages montrent que le fossé se creuse entre elle et son rival du Vermont, Bernie Sanders. Les conventions des 2 partis se tiennent en juillet, mais un candidat pourrait accumuler assez de délégués avant cette date pour garantir son investiture. À ce stade, Donald Trump semble bien parti aux grandes dames des barons du Parti républicain, surtout après avoir refusé de condamner les racistes du Ku Klux Klan et retweeté une citation du fasciste Benito Mussolini.
Le Conseil de sécurité de l'ONU a reporté à demain un vote sur la résolution qui imposerait de nouvelles sanctions à la Corée du Nord à cause de son dernier essai nucléaire et du lancement d'une fusée de longue portée. La Russie a requis une révision de 24 heures. La résolution prévoit un embargo total sur les armes Sur les armes, l'inspection obligatoire de tous les cargos allant vers ou revenant de la Corée du Nord et l'arrêt de toute importation de produits pouvant servir à des fins militaires. C'est le deuxième retard causé par la Russie qui détient le droit de veto au Conseil de sécurité.
Deux employés locaux du consulat américain à Peshawar, c'est dans le nord du Pakistan, ont trouvé la mort dans une explosion lors d'une mission d'éradication de drogue. Le secrétaire d'État américain John Kerry a confirmé la nouvelle ce mardi au département d'État, ajoutant que plusieurs soldats pakistanais ont également été tués dans l'incident. Il n'a pas offert d'autres détails.
Oussama Ben Laden disposait de millions de dollars dissimulés au Soudan qu'il destinait au financement du djihad, selon un document déclassifié publié mardi par l'administration américaine. La direction du renseignement, la DNI, a publié sur son site internet une nouvelle série de documents saisis lors de l'attaque du repère du chef d'Al-Qaïda à Abu Tabab.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec Nathalie Barge.
424 rencontres d'affaires ont été enregistrées lundi à Abidjan lors du forum économique ivoiro-turc dans le cadre d'une visite du président turc Recep Tayyip Erdogan, selon le président du patronat ivoirien Jean Kakou Diagou. Les échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et la Turquie sont passés de 330 à 390 millions de dollars. Les deux pays visent le milliard de dollars en 2020, précise Abidjanet. La croissance en Afrique du Sud pour 2015 s'établit à 1,3% selon les statistiques publiées ce mardi, contre 1,5% en 2014. Des niveaux insuffisants pour résorber le chômage qui dépasse toujours 25%, rapporte l'AFP. La chute du rand qui a perdu 30% de sa valeur face au dollar et la sécheresse ont augmenté l'inflation qui s'établit à 6,2% au-delà de la limite des 6% fixée par la Banque centrale. En outre, le régulateur des tarifs de l'électricité vient d'annoncer une hausse des prix de 9,4%. La Guinée va bénéficier d'un financement de 119 millions de dollars dans le cadre des plans de travail annuels du système des Nations Unies, indique l'APA. Il s'agit d'un moyen d'accompagner le gouvernement guinéen pour la promotion d'un développement inclusif et durable, selon Séraphine Wakana, coordonnatrice de l'ONU en Guinée.
La Minute Éco, merci Nathalie Barge.
L'actualité sportive ce soir, c'est avec John Lennon. Salut John.
Bonsoir.
Alors, commençons par ce feuilleton de dopage en athlétisme. L'Agence mondiale antidopage attend une réponse du Kenya d'ici au 5 avril.
Oui, le Kenya, aux prises avec un scandale de corruption et de dopage, doit se mettre en conformité avec les règles de l'Agence mondiale antidopage d'ici au 5 avril, a indiqué mardi le président de cette agence, Greg Reddy. C'était en marge d'une réunion à Lausanne de la commission exécutive du Comité international olympique dont il est l'un des vice-présidents. Si le Kenya ne coopère pas, ses athlètes pourraient être privés des Jeux olympiques prévus à Rio du 5 au 21 août prochain. Il faut signaler que la même menace pèse également sur les athlètes russes.
Déjà des accusations contre Gianni Infantino pour la façon dont il est devenu président de la FIFA. John, une déclaration du président de Palerme.
Oui, habitué des déclarations spectaculaires, Mauricio Zamparini a affirmé lundi que Gianni Infantino avait été élu président de la FIFA vendredi. C'est parce qu'il avait acheté plus de voix que le Tchèque Salman. Le système ne change pas et le nouveau président de la FIFA, le chef des bureaucrates Infantino, en fait partie depuis le début, a estimé le président de Palerme au micro de la radio italienne Radio Bruno. Infantino, 45 ans, a été élu vendredi par 115 voix sur 207 à la tête de l'institution du football mondial, devançant le Tchèque Bahreini, Salman bin Ibrahim Al-Khalifa.
Espagne, Real Madrid, la polémique Ronaldo est réglée sur Zidane.
Oui, Ronaldo a déclenché une polémique en Espagne après la défaite samedi contre l'Atlético Madrid 0-1 en assurant que le Real, actuel troisième de Liga, serait peut-être premier si tous les joueurs madrilènes évoluaient à son niveau cette saison. L'entraîneur Zinedine Zidane a assuré que le problème est réglé.
À présent, on peut seulement dire que Washington, de la NBA, a battu Philadelphie 116 à 108. Merci John Lennon.
Merci.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Tatiana Mosso et Chérubin Dorsil, en votre compagnie, place au dossier du jour. Première escale, Chérubin, Bangui.
Oui, après la confirmation ce mardi de sa victoire par la Cour constitutionnelle, le président élu centrafricain Faustin Archange Touadéra se prépare à s'atteler à la lourde tâche de remettre son pays sur les rails. Parmi ses priorités, la réforme de l'armée, la réinstallation des populations déplacées, ainsi que la création d'emplois. Pour les précisions, Pascaline Magalé a joint à Bangui M. Faustin Archange Touadéra.
Nous allons entamer des dialogues maintenant qu'un président de la République a été élu et que prochainement un Parlement sera constitué. Aujourd'hui, nous aurons des autorités légitimes qui pourront valablement discuter avec tous ces groupes armés pour que nous puissions entamer le processus du désarmement, des mobilisations et l'insertion des groupes armés. Et ça, c'est la priorité. Et deuxièmement, la cohésion sociale était complètement sapée. Donc aujourd'hui, il va falloir entamer des dialogues intercommunautaires pour que le vivre ensemble soit une réalité. Nous allons créer donc un environnement propice à cela pour que nos populations puissent vivre en bonne intelligence.
Quel sera le rôle de la communauté internationale à vos côtés ?
J'en profite pour remercier la communauté internationale vraiment qui, dès les premiers instants, était donc au chevet donc de la révolution africaine. Sans l'appui de la communauté internationale, je ne sais pas, nous ne pouvons pas atteindre ce niveau aujourd'hui qu'on puisse aller dans la direction. Je crois que la communauté internationale a joué un très très grand rôle et nous en profitons pour vraiment les remercier. Et aussi, elle a joué un grand rôle pour dans la réussite des élections actuelles. Mais au-delà, nous devions encore continuer à compter sur l'appui de la communauté internationale du fait que cette crise-là a laissé beaucoup continuer. D'ailleurs, il y a un certain nombre d'aspects qui ne sont pas encore assez clairs et la situation est encore fragile. Et donc, on a besoin de l'appui de la communauté internationale parce que beaucoup d'efforts ont été faits. Mais si on ne poursuit pas ces efforts, on risque de revenir à la case de départ.
L'une de vos promesses de campagne, c'est de résorber le chômage des jeunes. Quelles sont vos solutions ?
Aujourd'hui, avec cette crise-là, le chômage s'est accentué. Alors, nous pensons immédiatement pour essayer de réduire le chômage des jeunes, c'est de relancer l'agriculture, parce que une grande partie de notre jeunesse se trouve dans le monde rural. Et les activités dans ce secteur-là, pour la plupart, c'est tourner vers l'agriculture. Et bien entendu, nous allons faire en sorte que le climat des affaires soit propice pour encourager les opérateurs économiques à s'installer, à investir et de ce fait pouvoir donner l'opportunité à nos jeunes de trouver de l'emploi.
Le président élu centrafricain Faustin Archange Touadéra au micro de Pascaline Magalé. Vous pouvez suivre l'intégralité de cet entretien sur notre site voafrique.com.
VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Bangui, sur 101.7 FM. Deux semaines après sa nomination à la primature, le nouveau Premier ministre tchadien Albert Paimi Padake a présenté son programme politique hier à l'Assemblée nationale. Programme politique qui a eu l'approbation de la majorité des députés. Le point avec André Kodjmadingar.
Face à ses fervents collègues députés d'hier qui buvaient pendant plus d'une heure du temps son programme politique de 22 pages, le Premier ministre chef du gouvernement, Paimi Padake Albert, recule suite au gel de l'intégration à la fonction publique. En tant que bon ancien parlementaire, il tente de redonner confiance aux jeunes diplômés sans emploi qui revendiquent leur intégration à travers la rue. Paimi Padake Albert informe que non seulement il y aura le recrutement de 5 065 jeunes précédemment annoncés par l'ancien gouvernement dans les seuls deux secteurs, l'éducation et la santé, mais le recrutement sera élargi dans tous les secteurs. Et le gouvernement fera un effort inédit de recruter plus de 20 000 jeunes diplômés au titre de l'emploi public pour l'année en cours, malgré un contexte économique contraignant. Plusieurs questions relatives au mode de recrutement et aux ressources financières pour la prise en charge en termes de salaire ont été évoquées. Paimi Padake Albert rassure les députés.
Est-ce que nous pouvons dire que nous avons des difficultés et que pour cette raison nous devons abandonner notre jeunesse? Nous sommes obligés de nous battre pour faire en sorte que nous avancions ensemble avec cette jeunesse qui attend. Mais quand on dit remplacement numérique, ne tombons pas dans un débat de sémantique. Remplacement numérique parce que ça ne gonfle pas le budget de l'État. D'où les 20 000 annoncés pour 2016, ce sont des 20 000 emplois réels sur la base d'une obligation que nous nous donnons en tant que gouvernement pour ne pas laisser les jeunes sur le carreau.
Ce revirement rassure-t-il le jeune diplômé sans emploi? Damas Gérard est le secrétaire général de la coalition des lauréats issus des écoles professionnelles et institutions étatiques du Tchad.
C'est juste une manière d'endormir la jeunesse parce qu'ils savent que notre délai est déjà expiré et qu'on va recommencer bientôt avec nos manifestations. Tout ce qu'on veut est qu'il lie la parole à l'action. Sincèrement, nous sommes fatigués. Il faut que nos autorités sachent qu'on ne peut pas mentir éternellement à un peuple.
Le Premier ministre entend également combattre toutes les formes d'injustice, source de frustration, et promouvoir une justice juste et compétente avec un personnel aux capacités renforcées et ayant les moyens nécessaires à distribuer avec efficacité la justice à tous les justiciables. Son programme politique a été voté par 147 voix pour, 23 abstentions et une voix contre. André Koduma Dingar Ndiamena, La Voix de l'Amérique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos, et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Cap maintenant sur le Niger pour la suite de notre mini-série sur la vie religieuse dans ce pays à plus de 90% musulmans. Notre envoyé spécial Nicolas Pinault revient sur les émeutes qui ont pris pour cible les communautés chrétiennes en janvier de l'année dernière.
Dans sa maison de Niamey, le révérend Kim Sobureima se souvient douloureusement de l'explosion de violence de janvier 2015. Le président de l'Association des missions et églises évangéliques du Niger rappelle que 68 églises, maisons ou orphelinats chrétiens ont été détruits à Niamey, Zindé ou Gouré.
Tout ce qu'il y avait comme grande église en dehors de la cathédrale qui a été sauvegardée, eh bien le feu est passé par là et personne n'était là pour les arrêter. Et le feu a brûlé toute la journée, il n'y avait pas de pompiers, il n'y avait personne pour... Alors Dieu simplement a préservé la vie de quelques chrétiens qui vivent au Niger. Et c'est bien dommage.
Pourquoi de tels actes alors que chrétiens et musulmans vivent ensemble au Niger depuis des siècles? Pas surprenant, selon Jean-Pierre Olivier de Sardan, qui constate une montée de l'intolérance religieuse dans le pays. Il est socio-anthropologue à l'ASDEL, le laboratoire d'études et de recherche sur les dynamiques sociales et le développement local à Niamey.
Ce qui se présente, c'est évidemment pas cette violence ou ces émeutes. Il y a eu clairement, depuis une vingtaine d'années environ, une montée de l'intolérance religieuse. C'est manifesté par des tas de signes. Par exemple, les chrétiens, il y a environ 2 ou 3 ans déjà, avaient remarqué qu'il y avait une campagne de SMS qui circulait au moment de Noël en disant « il ne faut pas aller fêter Noël avec les chrétiens, il ne faut pas leur souhaiter bonne année, etc. » Ce qui était impensable dans le Niger d'il y a 50 ans.
Du côté de l'Association islamique du Niger, on rejette tout amalgame. Les assaillants qui ont pris d'assaut les lieux de culte chrétiens ne seraient tout simplement pas des musulmans. On écoute Boubacar Seydou Touré, le secrétaire général de l'ANI.
Ce n'est pas les musulmans qui ont fait ces débordements. Si vous regardez les images, on voit que ce sont des enfants, des badauds qui couraient dans la ville, parfois d'autres même qui prennent des bouteilles, de l'alcool, qui buvaient et qui criaient à l'Akbar. Est-ce qu'un musulman va le faire? C'est vraiment une révolte des badauds. Ça sent très bien qu'il y a des sous dans ce lieu, ils nous ont attaqués.
Révolte, le mot sonne juste pour évoquer le malaise social dans un pays où la moyenne d'âge est de 15 ans et où le taux de croissance démographique avoisine les 4%, l'un des plus élevés au monde. Abdoulaye Sounaï est chercheur au Centrum Moderner Orient de Berlin. Il est spécialiste de l'islam au Niger.
La majorité de ceux qui ont brûlé, ceux qui ont saccagé, c'est des enfants. Donc il y a une sorte de désocialisation de la jeunesse nigérienne et qui, à mon avis, est un phénomène urbain. Évidemment, on a un cocktail Molotov social. De ce point de vue-là, les manifestations anti-Charlie n'étaient qu'un prétexte ou un détonateur.
Une chose est sûre, plus d'un an après, les chrétiens du Niger vivent plus que jamais dans la peur. Nicolas Pinault, Niamey, VO Afrique.
Dossier spécial.
le cauchemar des migrants africains vers l'Europe. Ils sont des centaines de milliers qui traversent la Méditerranée au péril de leur vie.
We moved yesterday to Italy. What happened in the sea was this.
On est parti hier pour l'Italie. Ce qui s'est passé quand on est parti, on ne savait pas que le bateau avait des fuites. Le bateau était en train de couler. On a appelé à l'aide en Libye. On a attendu 30 minutes à une heure. Les secours sont arrivés. On remercie Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. N'eussent été les secours, nous serions tous morts.
Retrouvez notre page spéciale consacrée à ce dossier sur voaafrique.com et sur Facebook.
Dernière ligne droite dans la campagne électorale au Bénin pour les candidats, l'enjeu est de taille. Convaincre les électeurs à voter massivement pour eux le 6 mars prochain. Ambiance de fête, mais aussi de compétition. Les candidats choisissent selon leurs inspirations les thèmes à aborder avec les populations. Quelle est l'ambiance qui prévaut actuellement au Bénin? La réponse dans ce reportage de notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur Adandé.
Encore quelques jours et les Béninois pourront sortir voter pour choisir le prochain président de la République. Sur le terrain, la campagne bat son plein dans une ambiance de compétition avec tous ses corollaires. La bataille se fait sur le terrain mais aussi sur les réseaux sociaux avec des mécontentements de part et d'autre. Et le fait que des milliers de personnes n'ont toujours pas reçu leur carte d'électeur en rajoute à la frustration déjà palpable. Dans le rang des présidentiables, suite aux ceux de la rupture, la méfiance est à son comble.
L'inquiétude est grandissante et ce n'est pas bien. Faisons tout pour faire baisser la tension. Je ne sais pas pourquoi jusqu'à présent, malgré tout ce que nous disons, les gens n'arrivent pas à avoir leur carte d'électeur.
Des questions demeurent également ouvertes par le fait qu'une catégorie d'acteurs politiques agglutinés autour de la mouvance présidentielle a engagé sans pudeur le maniement de la psycho du chaos électoral.
Il y en a qui veulent frauder. Il faut les empêcher à tout prix de frauder.
Le Fonds des organisations nationales de lutte contre la corruption a d'ailleurs opéré une sortie médiatique pour dénoncer la violation du code électoral.
L'utilisation des biens de l'État pour battre campagne. Cet article 63 est violé allègrement depuis plusieurs semaines au Bénin. Les préfets, les ministres, les ambassadeurs quittent même leur poste pour venir au Bénin battre campagne pour des candidats.
Le président de la conférence épiscopale, archevêque de Cotonou, compte tenu de l'ambiance qui prévaut, a fait une sortie médiatique pour appeler les populations à la paix. Il sera rejoint par l'aumônier des cadres et personnalités politiques qui se désolent de la distribution parcellée des cartes d'électeurs.
Nous, on n'acceptera plus ces situations-là. Parce que bon, on avale les corruptions, les détournements, les mauvais comportements sont impunis et c'était continu de jouer vraiment aux irresponsables. Et je suis très dur là-dessus. Parce que notre pays est sacré. Il est temps que les responsables prennent la mesure de la gravité de cette situation et se déploient en initiative apaisante et rassurante.
La campagne est donc effective sur le terrain, mais celui qui reçoit le plus d'attaques reste le Premier ministre candidat. Lionel Zissou reste tout de même imperturbable et poursuit sa route.
Vous avez fait allusion à des attaques contre votre candidat. Soyons très clairs. Et s'il vous plaît, pour ceux qui ont déjà choisi de voter Lionel Zissou, essayez de comprendre comment moi je ressens cela. Aucune de ces attaques ce matin. Mais les choix que vous avez faits sont vos choix.
Yaï Boni et Nicéphore Soglo se sont engagés eux aussi dans la campagne électorale avec chacun une logique à défendre. La campagne électorale prend fin vendredi à minuit pour laisser place aux élections le dimanche avec ou sans la distribution totale des cartes d'électeurs. Et c'est une réalité qui fâche énormément. De Cotonou, Ginette Fleur Adandé pour VOA Afrique.
C'est la fin de cette édition. À la mise en onde, Lionel Gaïma, à la console, Monsieur Zorniak, présentation Tatiana Mousseau et chez Robin Dorsil.
La conversation se poursuit sur Facebook, sur voaafrique.com pour plus d'infos 24 heures sur 24.
Ainsi va le monde aujourd'hui.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui. Diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Kledou FM Bamako. Raga FM Goma. 96.5 Fraternité FM Parakou Bénin. Et bien d'autres encore sans oublier sur ondes courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.